m'entends?
Oui, et toi, tu m'entends?
Ouais, ça y est, je t'entends. Bonjour Margot.
Salut Clément.
Confinement, nature!
Bonjour les amis. Les décomptes sont finis parce que les vacances, pour moi, c'est aujourd'hui. Ça veut dire que ceci est probablement le dernier épisode de confinement voiture. Encore faut-il que le confinement soit effectivement levé le 11 mai et que nous reprenions alors une activité normale. On verra bien. Pour l'heure, je vous propose de faire connaissance avec un jeune éducateur spécialisé. Il travaille dans un CESAD, un service d'éducation spécialisé et de soins à domicile. Bienvenue dans le dernier épisode de Confinement Voiture.
Confinement !
Épisode 23, Éduque en contact.
Je suis Clément Bayon, j'ai 27 ans, j'habite sur Saint-Sevé. Je suis éducateur spécialisé, diplômé depuis 2017. Si je dis pas de bêtises, ça devrait à peu près être ça. Alors, éducateur spécialisé, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup de choses. On intervient auprès de différents publics. On peut intervenir auprès d'enfants, auprès d'adolescents, auprès de personnes âgées également, personnes en détresse sociale, que ce soit des personnes, par exemple, SDF ou des personnes souffrant d'addiction. Pour ma part, je travaille actuellement dans la protection de l'enfance. Et j'accompagne des adolescents actuellement entre 6 et 18 ans, pourvus de troubles psychiques assez importants, qu'on accompagne en milieu ouvert, c'est-à-dire qu'on intervient à partir de leur lieu de vie, là où ils habitent.
J'imagine que là, avec le confinement, ça a dû apporter quelques changements dans ce que vous faites habituellement, ça a dû un peu bouleverser les choses, et peut-être les comportements aussi, je sais pas.
Alors, effectivement, au niveau de notre travail à nous, ça c'est clair que ça a changé pas mal de choses concernant les interventions, par exemple, parce que les premières semaines, la première question, ça a été d'abord, d'une part, où est-ce que vont vivre ces jeunes pendant le confinement qu'on accompagne, parce que pour la plupart, ils ont un emploi du temps habituellement qui est assez décousu. Ils sont sur plusieurs lieux pendant une seule et même semaine. Du coup, la priorité, ça a été ça, c'est-à-dire leur trouver un endroit où ils vont être en sécurité, où eux aussi, comme tout le monde, vont pouvoir être confinés. Et après, effectivement, on a pu se poser la question de comment est-ce qu'on va intervenir auprès de ces jeunes pour aller les voir, maintenir le lien. Est-ce qu'on peut aller les voir déjà dans un premier temps aussi? Et dans un autre temps aussi, la question de la protection des éducateurs aussi. Est-ce qu'on va avoir des masques? Est-ce qu'on va avoir du gel hydroalcoolique pour se protéger nous aussi et protéger du coup les jeunes quand on ira voir si on va les voir? Voilà pour ça. Et pour la deuxième question, c'est-à-dire en termes de comportement, à l'image de tout le monde, j'ai envie de dire, c'est un climat assez anxiogène qui se dégage de cette période. Et pour eux comme pour nous, c'est très angoissant. Alors, ça peut avoir plusieurs effets, hein, pour certains adolescents. Pour certains, ça va les aider à s'apaiser, c'est-à-dire que l'emploi du temps n'est plus le même, il est plus aussi varié et fourni, je dirais, qu'habituellement. Du coup, ça leur permet de se poser un peu, en tout cas, du moins pendant les premières semaines. Pour d'autres, au contraire, cette anxiété et ce climat anxiogène va générer de l'angoisse, des colères, de la frustration encore plus, le fait de se retrouver pour certains en collectif dans des structures avec plusieurs autres enfants. Ça va créer des tensions, forcément, des tensions qui vont amener à des conflits qui ne sont pas toujours simples à gérer.
Tu parlais des masques, des protections. Vous avez été équipé assez vite ou ça a traîné un petit peu?
Non, tout à fait. On a été très très bien lotis, je trouve, de par les décisions qui ont été prises par notre direction. Déjà, d'une part, ils se sont démenés pour qu'on puisse être protégés le plus tôt possible. Donc, dès les premières semaines, on a pu avoir accès à des masques, à du gel hydroalcoolique quasi immédiatement pour pouvoir intervenir en cas d'urgence auprès des adolescents qu'on accompagne.
Et du coup, là, si tu devais décrire une journée type, déjà, est-ce que tu peux avoir des journées types pendant cette période de confinement? et si tu peux, ça ressemble à quoi?
Alors, la vraie question, Margot, c'est est-ce que j'ai une journée type d'habitude?
Aussi.
Parce que nos emplois du temps sont assez variés et vont dépendre de l'emploi du temps des adolescents qu'on accompagne et de leur état aussi, selon ce qui se passe en fait dans chaque situation. Donc déjà, à la base, c'est quelque chose d'assez varié. Et là, pendant le confinement, une journée type, je me lève comme tout le monde, j'essaye de prendre un grand café, j'ouvre ma boîte mail et je commence mes journées en télétravail chez moi, et ça c'est un peu envahissant. parce que je suis chez moi et c'est mon cocon. Et là, du coup, on parle des jeunes quand on est chez nous. Enfin, c'est assez particulier. Donc, j'ouvre mes mails, je lis mes mails, je commence mes appels, que ce soit des professionnels ou certains jeunes. Et après, on intervient quand même sur certaines structures pour aller voir certains adolescents quand c'est possible, quand il le faut aussi, dans certaines situations. Ou on intervient sur l'extérieur en cas d'urgence, quand un jeune fugue, quand il faut aller le chercher. Voilà.
Ça s'est présenté, ça, déjà, depuis le début du confinement ?
Oui, ça s'est présenté, ouais. Donc, c'est assez particulier. Après, le système, en tout cas notre système à nous, est suffisamment bien rodé pour pouvoir s'y adapter. Là où c'est particulier, c'est que du coup, pour intervenir auprès de l'adolescent en question, il faut respecter aussi les mesures de sécurité, la distance, dans un moment où le jeune a parfois besoin d'un peu de proximité. Donc, on essaye de gérer comme on peut, avec les masques et en invitant le jeune à respecter ces gestes-là aussi, même s'il n'est pas tout à fait disponible à ce moment-là.
Du coup, là, effectivement, tout le travail autour du lien que vous créez avec eux, c'est absolument à réimaginer pour la période, là.
Oui, c'est à réimaginer. Ça nous a demandé d'être un peu créatifs et ça nous a permis pour certains aussi de vérifier à quel point le lien était présent. Parce que malgré la distance, du coup, et le fait et l'impossibilité de se voir, on a pu constater que certains jeunes, eux aussi maintiennent le lien. Et on aurait pu penser que ça allait briser quelque chose, que ça allait venir casser quelque chose dans nos accompagnements et étonnamment, non. Non, non.
Naïvement, je pensais que Clément voulait dire que les jeunes appelaient d'eux-mêmes leurs éduques. Faut pas pousser, m'a-t-il répondu amusé, mais ils sont contents de nous parler.
Ils sont contents quand on les appelle, en tout cas, et qu'on arrive à avoir des nouvelles ou à les voir. Ils sont quand même super contents quand ils reçoivent les cartes postales. C'est quelque chose de presque nouveau pour eux. Ils n'ont pas l'habitude de recevoir des cartes postales. Je pense qu'on faisait encore partie des générations. On avait l'habitude d'en recevoir et d'en faire même. Là, ils sont assez étonnés. Donc, du coup, ils prennent plaisir à y répondre. Et c'est là qu'on voit que le lien est présent et que c'est chouette.
Ces cartes postales, c'est quelque chose que vous avez mis en place depuis le confinement pour vous adapter, justement, maintenir ce lien ?
Alors là, ouais, c'était en l'occurrence l'initiative d'un collègue à nous dans notre équipe qui a pensé, hein, comme ça, qui a eu cette idée. Il s'est dit, tiens, j'écrirais bien à tel jeune et puis pourquoi pas aux autres d'ailleurs aussi. Et il a fait plein de cartes postales et ça a bien pris. Donc il a fait pour l'ensemble des jeunes qu'on accompagne. Il a eu quelques réponses, donc c'était assez sympa. Ouais.
Et qu'est-ce que vous avez fait d'autre, mis à part les cartes postales, pour maintenir le contact et vous adapter ? Les coups de téléphone, tu disais ?
Ouais, les coups de téléphone essentiellement, en fait, parce que après, d'un point de vue logistique, c'est assez compliqué. On ne peut pas vraiment utiliser n'importe quel site non plus, parce qu'il faut qu'on puisse échanger avec les jeunes de manière assez protégée. Par exemple, Skype, WhatsApp, au niveau institutionnel, on n'est pas vraiment autorisé à utiliser tout ça. Donc, on fait essentiellement par téléphone, en passant par les éducateurs de la structure, parce que tous les jeunes qu'on accompagne n'ont pas de téléphone, n'ont pas de smartphone non plus. Voilà. Donc, on s'adapte comme ça, par téléphone, oui, essentiellement.
Quand tu m'as écrit, là, tu m'avais envoyé un petit mail. Tu me disais que vous étiez un peu laissé pour compte, quoi, que vous vous sentiez invisibilisé durant cette crise comme en temps normal, entre guillemets.
Oui, alors le métier d'éducateur a pour réputation d'être assez méconnu. C'est vrai que souvent, ou du moins rattaché à des fausses idées. On a l'image qui nous colle à la peau de Pascal le grand frère qui intervient au domicile, qui casse la baraque et quand il repart deux jours après, tout va mieux. C'est pas vraiment ça notre travail. Et souvent, il est méconnu, effectivement. Les gens ne savent pas trop, à moins d'avoir un cousin éduc ou un ami. Ils ne savent pas souvent voilà ce que c'est. Et là, effectivement, pendant cette période, mais comme habituellement, hein, c'est vrai que nos interventions, elles ne transparaissent pas. Après, c'est pas une volonté, en tout cas personnellement, de pouvoir être reconnu. J'attends pas à ce qu'on m'applaudisse forcément. Moi, je fais mon travail parce que je me suis engagé à faire ce travail-là que j'aime faire. Donc, j'attends pas une reconnaissance, que ce soit de l'État ou de la population. Mais c'est vrai que c'est un fait que ce travail-là est quand même très peu reconnu.
La crise sanitaire que nous traversons est une barrière de plus parmi tant d'autres déjà quotidiennement dressées sur nos chemins d'EducSP, m'a aussi écrit Clément.
Oui, parce qu'au début, on ne savait pas du tout à quelle sauce on allait être mangé non plus. Et quand, effectivement, je t'ai envoyé ce mail, toutes les structures n'ont pas été munies des mêmes protections dont nous, on a pu bénéficier, par exemple, en fait. Donc, c'est vrai que quand on parle de soins, de manière assez générale en France, on pense aux soins médicaux, à proprement parler, en hôpital ou des infirmiers libéraux. Et on oublie toute cette sphère-là, c'est-à-dire le soin mêlé à l'éducatif, le soin psychique qui est très important et primordial aussi dans notre société. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont en souffrance, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes, et ça fait partie du soin. Et souvent, ces services-là sont un peu laissés pour compte, sont un peu oubliés, en tout cas, à mon sens. Hein. Et du coup, ça entraîne le fait que ben, dans des moments de crise comme celui-là, voilà, le risque, c'est qu'ils passent un peu à l'as et qu'eux ne soient pas fournis en termes de protection pour intervenir.
Rien de nouveau sous les tropiques, donc les acteurs du social ont été pris au dépourvu, comme bon nombre d'entre nous, mais ont su rebondir. Comme nous le disions l'autre jour avec Carmen et Simon, qui œuvrent eux aussi dans le social, une crise sanitaire ne peut pas les contraindre à fermer leurs établissements, d'autant plus que la période exacerbe les tensions. C'est le mot de la fin de Clément Bayon.
Juste un constat, tout ce que je lis en ce moment, je m'alarme un peu. J'ai pu voir en fait que les appels au 119, qui est le numéro d'urgence pour l'enfance maltraitée, ont augmenté de 20%. C'est assez logique, hein, avec tout ce qui se passe, hein, que les tensions au sein des domiciles s'accentuent et que parce que tout est exacerbé. Et je pense que c'est important de rappeler ce numéro, le 119, et de rappeler aussi que ça peut être anonyme, que c'est un numéro gratuit et surtout anonyme qu'on peut.
Le 119, si peut-être qu'il faut qu'on dise déjà que le 119, c'est le numéro pour les enfants maltraités, hein, c'est ça.
Pour l'enfance en danger, c'est ça. Pour l'enfance en danger, si par exemple vous entendez des cris chez votre voisin, que quelque chose vous alerte, vous alarme, et que vous vous dites, mais quand même, c'est pas normal que ça crie aussi fort tous les soirs, et que vous avez un petit doute, ce numéro-là est là pour ça. Voilà. Juste un petit appel qui ne coûte rien, où on ne va rien vous demander de plus que ce que vous avez pu entendre, et ça ne va vous engager en rien et vous rendre responsable de rien du tout, si ce n'est d'éventuellement aider un enfant, et c'est beaucoup.
Merci beaucoup, Clément.
Merci Margot, je te fais un gros bisou.
Moi aussi.
Pour voir Sari d'Orsino, ouais, nous roulons toujours le long de la mer, comme un grand banc de poissons. Le vent tiédissant me file entre les doigts. Juliette avait mis sa robe orangée, gorgée du soleil cueilli ce matin. Juliette avait mis là sa robe orangée, gorgée de soleil. Le ruisseau est plein de tes rires, je me baigne dedans. Quelle heure est-il où atterrir? Le ruisseau est plein de tes rires, je me baigne dedans. Tu te portes comme un chat, un pendentif. Abricot géant, pomelo, j'ai mordu à tous les fruits de ton verger. J'ai dit qui es-tu, puis j'ai pris ton corps nu. Il avait un goût de melon. Alors le matin s'est levé sur nos corps nus. Il faisait un petit peu froid. Toi, la première, ce fut toi qui dis. C'est l'heure où l'on revêt nos manteaux de pudeur quand l'aube a la couleur du empêcher. Juliette fait le tour de l'endroit, puis elle file un morceau du panorama. Dans sa robe baignée de soleil, file mes doigts comme le vent tiédissant. Juliette a remis sa robe orangée, gorgée de soleil, accueillie ce matin. Juliette a remis là sa robe orangée, gorgée de soleil. Le ruisseau est plein de tes rires, je me baigne dedans. Quelle heure est-il pour atterrir? Le ruisseau est plein de tes rires, je me baigne dedans. Tu te portes comme un charme, un pendentif. Remangerons-nous le fruit du hasard, cette pomme étrange qui affame quand on la mange. Adieu, adieu verger, abandonnez nos pas l'odeur du figuier qui est celle de l'été. Adieu, adieu verger, remangerons-nous le fruit du hasard, cette pomme étrange qui affame quand on la mange. Abandonnerons-nous encore nos pas à l'odeur du figuier qui est celle de l'été. Adieu, adieu verger, adieu. L'angoisse pénétra comme un corps extérieur, nous l'assiégeâmes de mille pierres. Alors apparut, changé en paix, ce vieux monde calcaire. Adieu, adieu verger, adieu. Adieu verger, adieu. Adieu verger, adieu. Adieu verger, adieu. Remangerons-nous le fruit du hasard, cette pomme étrange qui affame quand on la mange. Abandonnons-nous encore nos pas à l'odeur du figuier qui est celle de l'été. Adieu, adieu verger, adieu, adieu verger. L'angoisse pénétra comme un corps extérieur, nous l'assiégeâmes de mille pierres. Alors apparut changé en père.